Chapitre 6e, Eutrope. Dans le palais du patriarche de Constantinople, deux ecclésiastiques causaient dans une chambre retirée et très simplement meublée. L'un était jeune. Quant à l'autre, il n'avait point d'âge. Son corps était grêle et cassé, ses traits délicats, ses yeux profondément enfoncés, et l'on n'aurait pu dire si c'était la souffrance ou les années qui l'avaient conduit à la vieillesse. Quand il gardait le silence, on le croyait extrêmement faible et débile, mais aussitôt qu'il parlait, son regard, son ton de voix, sa physionomie, son maintien, tout respirait en lui une force et une vitalité merveilleuses. En ce moment, il s'entretenait avec le jeune prêtre qui se tenait respectueusement devant lui. « Allez vers lui, Sérapion, et dites-lui tout ce dont je vous ai chargé. Dites-lui que je le prie, que je le supplie, que je le conjure de révoquer cette loi d'iniquité. » Dites-lui qu'un jour il me remerciera lui-même de mes instances actuelles, et si ce n'est pas demain, ce sera certainement à l'heure de sa mort. Dites-lui tout cela. Je le ferai, Saint-Père, mais n'accusez pas mon bon vouloir, si je suis impuissant à le persuader. Serais-je aussi injuste, mon fils? Non. Le succès est entre les mains de Dieu. Mais nous devons faire nos efforts pour prévenir l'inhumanité autant qu'il est en notre pouvoir. C'était le patriarche Jean, surnommé Chrysostome, Bouche d'or, qui envoyait son diacre Sérapion au consul Eutrope. Cette année, la dernière du siècle, avait apporté au monde le monstrueux spectacle d'un esclave qui, après avoir passé sa jeunesse comme valet d'écurie et son âge mûr comme coiffeur, sans avoir rien de remarquable que ses vices, se voyait élevé au rang des successeurs des Fabius et des Scipions. Cependant, il ne fut pas reconnu à Rome. Le Sénat le rejeta, et les annales de la République n'enregistrèrent cette année qu'un seul consul, Malius Théodorus. Eutrope se consola de cette humiliation. Il était consul pour Constantinople. Sa statue s'élevait dans le forum. 100 fois reproduite en bronze, elle fut envoyée dans les provinces. Le rang et la dignité de patricien l'assuraient pour l'avenir d'une haute position. Circonstance digne de remarque, c'était Eutrope qui avait fait venir d'Antioche, sa ville natale, le vieux prêtre, l'illustre prédicateur Jean Chrysostome, et l'avait élevé sur le siège patriarcal. Sa réputation de sainteté et d'éloquence était parvenue depuis longtemps jusqu'à Constantinople. Le peuple le désirait. Tout le monde s'accordait à dire qu'un homme de si grand talent ferait l'honneur et la gloire du siège patriarcal, et Eutrope, enchanté de trouver une occasion facile de se rendre agréable par l'accomplissement du désir général, avait sans peine amené l'empereur à cette nomination environ 2 ans avant l'époque à laquelle notre récit nous a conduits. Eutrope avait compté sur la reconnaissance à la manière des âmes basses et viles. Il s'attendait à une complaisance aveugle. Le patriarche le remercia à la manière des âmes grandes et nobles. Il lui dit la vérité. Toute la cour, toute la ville haïssait et craignait Eutrope, tout en se soumettant à lui. Eudoxia le haïssait et le craignait, mais sans se soumettre. Le patriarche avait des sentiments tout autres. Il cherchait à l'éloigner du mal quand l'occasion s'en présentait. Il savait combien est dangereux l'air qu'on respire auprès d'un trône mondain et condamné à la faiblesse. Comment un Eutrope eût-il pu s'y préserver du vertige? Sérapion dut attendre longtemps avant d'être reçu par le consul, qui était tout à la fois ministre d'État, de la guerre et de la maison impériale, 3 fonctions qui auraient exigé chacune un homme capable. Les antichambres étaient encombrées tant par les valets du consul que par les visiteurs et les solliciteurs. Ces derniers étaient en majorité. Devenir le plus riche possible, et le plus tôt possible, était le mobile de ceux qui cherchaient à faire leur bonheur par la faveur d'Eutrope. Le moyen le plus expéditif consistait à se faire nommer gouverneur d'une province, car les sujets de l'Empire étaient sans défense contre les exactions d'un proconsul. Mais les solliciteurs n'était pas seul à le savoir. Eutrope le savait aussi. Il avait taxé avec une exactitude mercantile toutes les provinces romaines, depuis le Balkan jusqu'au Tigre, et quiconque voulait obtenir un gouvernement devait payer à Eutrope un courtage proportionnel. Il recevait tout. Celui qui ne pouvait payer en espèces pouvait donner sa terre ou les bijoux de sa femme. On comprend que ce mode ne s'appliquait qu'aux gouverneurs des provinces les moins grandes et les moins productives. Quant au royaume de Phrygie, de Syrie et d'Égypte, il fallait, pour en obtenir le gouvernement, verser des sommes bien autrement considérables. Un de ses candidats sortait en ce moment du cabinet d'Eutrope. C'était un personnage gros et bouffi, vêtu richement mais sans goût, et ressemblant plus à un énorme champignon bigarré qu'à un homme. On aurait eu envie de rire en le voyant. Si son visage n'avait inspiré un sentiment d'horreur, plus encore par la bassesse peinte sur ses traits que par leur laideur même. Ses joues, naturellement livides, étaient fardées d'un rose éclatant, et ses sourcils, abreuvés de teinture noire, se hérissaient comme des épis au-dessus de deux yeux pleins de ruse et de malice. « Vous comprendrez, mon cher Eustathès, que votre proposition est inacceptable, » dit le consul à un homme de naissance qui cherchait à améliorer sa position de fortune. « La province est si petite, » répondit le solliciteur. « Si elle est trop petite pour votre activité, je puis vous offrir la Paphlagonie, » dit Eutrope malicieusement. « La Lydie est plus rapprochée de la résidence de notre glorieux empereur, et son climat est plus doux que celui de l'âpre Paphlagonie, illustre Eutrope. Et elle a deux mines d'or dans les villes de Sardis et de Smyrne, cher Eustathès. L'Ionie, la Bithynie, la Lydie, la Carie, toutes ces provinces sont autant de joyaux de l'Empire, il ne faut pas les avilir. S'il ne vous convient pas d'abandonner au trésor de l'État votre terre de Cizic pour le gouvernement de la Lydie, je le regrette de ne pouvoir m'occuper de vos intérêts de famille. » Eutrope parlait d'un ton si sec et si froid que le solliciteur vit qu'il n'avait plus qu'à répondre oui ou non. « Eh bien, j'accepte, » dit-il en se faisant violence. « Mon bien de Cizic est tout ce qui me reste de l'héritage de mon père, et il me coûte de m'en séparer. J'ajouterai que cette propriété rapporte plus que vous ne semblez le croire, illustre Eutrope. « Contentez-vous donc de ces revenus ?» fit le consul d'un air hautain. « Je ne le puis, car ma femme dépense beaucoup, et il faut que je pense à l'avenir de mes fils. J'accepte donc vos conditions. » « Je vous ferai savoir quand notre affaire devra se conclure, » répondit Eutrope en se détournant, avec un salut imperceptible du futur proconsul de Lydie. Pendant que ce personnage s'éloignait, un valet annonça à Eutrope que le diacre Sérapion, envoyé par le patriarche, attendait depuis 3 heures. Joyeux du marché qu'il venait de conclure, Eutrope fit entrer Sérapion et alla au-devant de lui. Un message du patriarche, notre Saint-Père, m'est toujours agréable et passerait avant tout le reste, si je n'avais reçu des nouvelles importantes de l'armée. En outre, je suis continuellement accablé d'affaires et tourmenté par des solliciteurs. Que veut notre pieux patriarche? Il vous prie avec larmes d'abroger la loi qui enlève à l'Église le droit d'asile. L'empereur l'a ordonné ainsi, répondit Eutrope froidement. Il n'y a rien à y changer. Votre crédit est si puissant, dit Sérapion d'un ton suppliant. C'est une mesure nécessaire. Cette protection pour les criminels doit cesser. « Oui, quand les innocents, les veuves et les orphelins persécutés auront trouvé un autre lieu de refuge. Mais dans nos temps de troubles et de désordre, où triomphent la méchanceté et la haine, le droit d'asile de l'Église est un bienfait sans nom, non seulement pour le persécuté, mais aussi pour le persécuteur, qui a ainsi le temps de la réflexion, non seulement pour le faible, mais aussi pour le puissant, exposé aux poursuites du plus puissant que lui-même. Tout ce bruit ne vient que de Pentadia, » fit Eutrope. « Parlez-vous de Pentadia, la noble veuve de Timasius ?» demanda Sérapion étonné. « Et de qui donc? Elle me hait. Timasius était un traître. »« Il ne l'était pas. Balbus, à qui l'accordait toute sa confiance, a été un Judas, un faux accusateur. »« Grosse erreur, ami Sérapion. Ce que je vous dis est la vérité. Timasius méritait la mort. Par une grande générosité, il n'a été qu'exilé dans un désert d'Afrique, où il est mort naturellement. Car on n'est pas moins mortel là-bas qu'ici. » Pentadia s'est enfui dans une église, ridiculement. Elle était si peu menacée que notre gracieux empereur lui a laissé toute la fortune de Timasius. Mais elle me hait. Elle a fait courir le bruit, je le sais, que je suis le provocateur de la loi contre le droit d'asile, que je ne puis me consoler qu'elle ait été sauvée avec tous ses biens, que je vais prendre le moyen de prévenir le retour d'une pareille chose. Oui, oui, les femmes sont vindicatives. Je ne puis nier que ces bruits circulent. Bien plus, mon très digne père Jean m'a chargé expressément de vous les rapporter, afin que vous sachiez que l'opinion publique s'élève hautement contre cette loi. Mais ce n'est certainement pas la noble Pentadia qui a répandu de pareils bruits, car elle est toute à sa vocation, et tout ce qui se passe en dehors de sa chambre, de l'église et de la cabane du pauvre ne la touche pas. Et le patriarche s'imagine que j'abrogerai la loi à cause de ces bruits, fit Eutrope avec dédain. Non, mais par charité chrétienne, répondit Séraphin avec calme. Ne fermez pas le dernier asile à celui qui est persécuté. Personne ne choisit ce refuge sans être coupable d'un crime. Est-ce un crime que d'avoir de puissants ennemis? Vous parlez comme si le monde n'était peuplé que d'innocents et de malheureux. Il n'en est pas ainsi, mais ceux-mêmes dont vous parlez, fussent-ils de petit nombre, ont droit à des égards et à une juste protection. Le criminel lui-même ne doit pas tomber victime d'une aveugle fureur. Il faut qu'un tribunal exempt de passion le condamne à la peine qu'il mérite. Tout ce que vous pouvez dire sur ce sujet est inutile. La loi contre le droit d'asile est faite et promulguée. Ce serait tourner en dérision le pouvoir que de l'abroger. Portez donc au vénérable patriarche mon respect et mes regrets. Oh, écoutez-moi. Il m'a chargé de vous prier en grâce et à genoux, de vous rappeler que vous devez être miséricordieux afin que vous puissiez vous-même un jour trouver miséricorde. Je suis un trop bon chrétien, mon cher et pieux Sérapion, pour craindre le moment de paraître devant le souverain juge, fit Eutrope avec onction. Cela dit, il frappa dans ses mains et un valet entra. « À qui le tour d'audience ?» dit Eutrope. « À un courrier de l'armée, » répondit l'introducteur. « Et on ne m'en prévient pas tout de suite ? Et on me laisse gaspiller mon temps si précieux à entendre des sornettes, des contes de vieilles femmes, que le courrier entre ?» Sérapion s'était retiré, mais il était encore à même d'entendre cette explosion de la colère d'Eutrope. En passant à côté du courrier, il remarqua son air décontenancé, qu'il attribua à la crainte de paraître devant le ministre irrité, et il essaya de le rassurer. « Soyez tranquille, lui souffla-t-il, cela est à mon adresse et non à la vôtre. Je le crois, mais les nouvelles que je lui apporte ne sont pas faites pour l'adoucir, répondit doucement le courrier en se dirigeant vers le lieu d'où Sérapion sortait.